Sud Radio, il est 18h.
Parlons vrai.
Les informations avec Florian Laffont.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron critiqué par l'opposition. Le chef de l'État s'est dit prêt à ouvrir un débat sur une défense européenne qui pourrait comprendre les armes nucléaires. Cette expression est d'une gravité exceptionnelle. Nous touchons au nerf de la souveraineté française, a réagi François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux européennes. Depuis le Brexit, la France est le seul État membre de l'UE à disposer de la dissuasion nucléaire. Le Rassemblement national prépare la dernière ligne droite avant les élections européennes. Sur France 3 aujourd'hui, la tête de liste Jordan Bardella a précisé que Marine Le Pen, chef de file du RN à l'Assemblée nationale, va entrer en campagne à ses côtés dans les prochains jours. Elle sera sur la liste des européennes en avant-dernière position à titre symbolique. Un mineur placé en garde à vue après la mort d'un adolescent de 15 ans à Châteauroux. Il a reçu hier plusieurs coups de couteau au thorax dans le cadre d'une bagarre, selon le parquet. Un drame qui intervient alors que la violence des mineurs est au cœur de l'actualité, notamment depuis la mort de Chemseddine à Viry-Châtillon. Deux personnes interpellées ce matin à l'entrée du musée d'Orsay à Paris, soupçonnées d'avoir voulu dégrader des œuvres d'art. En possession de colle et d'un liquide blanchâtre, elles ont été placées en garde à vue. Une enquête est ouverte pour tentative de destruction de biens culturels en Réunion. Une délégation du Hamas attendue demain en Égypte. Elle va remettre sa réponse à la contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza et de la libération d'otages. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne affirme que la situation sur le front s'est détériorée. Les troupes russes ont remporté des succès tactiques dans plusieurs zones. Plus tôt dans la journée, Moscou a revendiqué la capture d'un nouveau village dans l'Est. Allez, le sport avec le foot. La fin de la 31e journée de Ligue 1. Lille s'impose à Metz 2-1, victoire de Nice à Strasbourg 3-1 et de Toulouse à Lorient 2-1. Clermont l'emporte à domicile 4-1 contre Reims. À suivre à 19h Lyon-Monaco et à 21h Marseille-Lens. Très bonne soirée à tous.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Et quel plaisir de vous retrouver comme chaque week-end sur Sud Radio pour faire le point pendant une heure sur les meilleurs moments de l'antenne ces 7 derniers jours avec évidemment des séquences qui vous ont fait réagir sur nos réseaux sociaux comme par exemple la venue ce vendredi de Bernard de la Villardière au micro de Valérie Expert et de Gilles Ganzman, le journaliste qu'on connaît notamment pour l'émission Enquête Exclusive, a créé sa plateforme Réel Média et il a fêté le premier anniversaire de cette plateforme. C'était l'occasion de venir en parler à notre micro. Et puis il s'appelle François Belet, il était au micro cette semaine d'André Bercoff pour parler d'un jeu de société qu'il a créé qui s'appelle La Traversée de Paris. L'occasion de revenir avec lui avec humour sur la situation plutôt catastrophique de la capitale et de la politique évidemment, avec bien notamment Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, qui était l'invité de Benjamin Glaize ce vendredi, qu'on réécoutera d'ici quelques minutes à peine sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Mais avant ça, on retrouve l'invité politique de Benjamin Glaize. Il recevait ce mardi Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, pour répondre à cette question. Comment enrayer la crise à Mayotte ?
Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaize.
Bonjour à tous, Sud Radio. Parlons vrai avec mon invité politique aujourd'hui, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Un an après l'opération Wambushu, l'opération Place Nette a été lancée il y a exactement une semaine pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre l'insécurité. Quel est le premier bilan que vous dressez de cette opération qui doit se poursuivre jusqu'à fin juin?
Mayotte Place Nette, vous l'avez dit, ça va se poursuivre pendant 11 semaines. C'est la mobilisation de 1700 policiers et gendarmes sur l'île de Mayotte, 374 km² pour que vos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. L'opération, elle consiste à viser trois objectifs. La lutte contre l'immigration clandestine, donc clairement expulser des étrangers en situation irrégulière. Deuxième objectif, la destruction d'habitats informels, les bangas. Donc 1300 bangas à détruire au cours des 11 semaines. Et puis, la lutte contre les bandes, 60 chefs de bande ciblés, identifiés, à interpeller au cours de ces 11 semaines.
Après, on en est où justement aujourd'hui ?
Une semaine, même moins d'une semaine, après le lancement d'opération Place Nette, On a 250 bangas qui ont été détruits, donc 250 bidonvilles détruits. C'est un quartier entier de Mamoudzou qui a été nettoyé de ces bangas, de ces bidonvilles. Nous avons eu 4000 contrôles, 100 interpellations de délinquants, et parmi ces 100 interpellations de délinquants, 6 chefs de bande, 50 armes
sur
aussi,
les 60 ciblés.
Les 60 ciblés, donc 10% des cibles que nous nous étions fixées sont d'ores et déjà interpellées moins d'une semaine après le début des opérations PlaceNet. J'ajoute aussi, c'est un point important, que une cinquantaine d'armes ont été également saisis dans le cadre des opérations qui se déroulent actuellement à Mayotte.
Vous l'avez dit, hein, lutte contre l'immigration illégale. Est-ce qu'il y a eu des interpellations justement de migrants en situation irrégulière, également de passeurs au cours de cette semaine ?
Depuis mardi dernier, on a 530 ESI qui ont été, étrangers en situation irrégulière, qui ont été interpellés. Et puis, nous avons mis en place des moyens de surveillance, notamment maritimes, qui ont permis hier le démantèlement d'un trafic de pêche illégale. On a saisi une tonne de poissons pêchés illégalement et 10 quassa. Donc des quassa, c'est des embarcations.
C'est des embarcations, oui,
voilà,
c'est ça.
10 quassa. Et du coup, des individus se livrant à ces trafics ont également été interpellés hier en fin d'après-midi.
Wambushu, c'était il y a un an. Marine Le Pen dit que ce soit pour Wambushu ou pour cette opération PlaceNet, on est sur une opération communication surtout. Que lui répondez-vous ?
Mais Marine Le Pen, elle fait de la communication. Elle en fait même d'ailleurs depuis 30 ans. Elle est en campagne électorale permanente. Moi, je considère que ce qu'elle dit, c'est une insulte aux forces de l'ordre qui sont mobilisées sur le territoire de Mayotte. On a, je vous l'ai dit, 1700 policiers et gendarmes engagés à Mayotte. On peut leur dire que ce qu'ils font...
Jusqu'à fin juin. Mais après
On peut leur dire jusqu'à fin juin et de façon... En fait, le renfort effectif de l'opération PlaceNet, c'est 100 personnes en plus. La réalité, c'est qu'il y a 1600 personnes engagées de façon permanente à Mayotte. Donc on peut venir à Mayotte faire du tourisme électoral et expliquer que l'engagement des forces de l'ordre, c'est de la communication, c'est la responsabilité de Marine Le Pen, c'est pas la mienne.
Elle propose quelque chose de très concret, la création d'un centre de rétention administrative flottant pour éviter que ces migrants mettent un pied à terre à Mayotte. Est-ce que c'est une solution qui vous semble intéressante ?
Non, je pense que c'est de l'ordre du gadget, ça frappe les esprits. En fait, encore une fois, la spécialité de Marine Le Pen, c'est au fond de constater... des choses qui résonnent au sein d'une opinion publique et d'une opinion publique à Mayotte qui souffre, qui vit des situations extrêmement difficiles. La réalité, c'est que pour envoyer un étranger en situation irrégulière dans son pays d'origine, il faut obtenir un laissez-passer consulaire. Vous pouvez mettre un centre de rétention administrative sur terre, sur mer, dans l'air, où vous voulez. La réalité, c'est que sans ce laissez-passer consulaire et sans l'expiration d'un certain nombre de délais, vous ne pourrez pas renvoyer un étranger en situation irrégulière. Alors, Marine Le Pen, elle a sans doute, visiblement, de ce que je lis du programme du Front National, la volonté de sortir des traités européens. Mais dans ces cas-là, il faut le dire. Parce que si on sort des traités européens, il y a des conséquences. Il y a des conséquences négatives aussi pour les ultramarins.
J'aimerais savoir si on a des chiffres concrets sur ces dernières années, pour parler plus globalement, de l'immigration clandestine. Est-ce qu'on a une baisse de l'immigration clandestine à Mayotte ces dernières années, une baisse de la criminalité également sur l'île ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ?
En fait, l'île de Mayotte est peuplée de 330 000 personnes officiellement recensées.
On dit que c'est sous-estimé ce chiffre.
C'est probablement sous-estimé si l'on en croit les retours des élus locaux, si l'on en croit aussi le besoin d'école et de scolarité. Donc nous, on est en train d'affiner cette façon de calculer pour justement être au plus près. Réussir à avoir une meilleure finesse d'appréciation, c'est pas la peine non plus d'expliquer qu'il y a 600 000 ou 700 000 personnes à Mayotte. Il y a absolument aucun élément tangible qui permet de le dire. Donc évitons d'avoir des discours absolument faux et alarmants. Pour revenir à votre question sur les chiffres de l'immigration clandestine, nous, ce que l'on sait, c'est que on expulse 25 000 étrangers en situation irrégulière chaque année depuis 4 ans. C'est une augmentation de 80% par rapport à 2020. Voilà ce que l'on sait. on a sur cette population de 330 000 habitants une moitié de population qui est étrangère et la moitié de cette moitié qui est en situation irrégulière.
Est-ce qu'il faut taper du poing sur la table plus fort, entre guillemets, vis-à-vis des Comores ?
Il faut taper du poing sur la table plus fort vis-à-vis de l'ensemble des pays qui sont à l'origine d'une immigration incontrôlée vers l'île de Mayotte.
C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas que les Comores, effectivement.
C'est ce que nous faisons. Après, il faut aussi bien doser les coups de menton et les discours très forts, et puis la réaction que peuvent avoir vos partenaires. Les Comores, il y a quelques années, ont fermé complètement l'acceptation de leurs ressortissants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu délivrer le laissez-passer consulaire. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que nous tenons un discours exigeant avec les Comores, exigeant, qu'on réussit à renvoyer 25 000 étrangers en situation irrégulière de l'île de Mayotte, mais nous donnons aussi un discours respectueux des Comores.
Mayotte qui est touchée également par des cas de choléra, on en est où aujourd'hui? Est-ce que la situation est sous contrôle?
Il y a une épidémie de choléra qui se déroule dans les Comores, dans l'archipel des Comores, avec 1500 cas aujourd'hui estimés. Les services de l'État, l'Agence régionale de santé, le préfet, l'ensemble des services déconcentrés de l'État regardent avec une extrême précision l'ensemble de l'évolution de l'épidémie de choléra au large de Mayotte. Aujourd'hui, chacun des cas de choléra à Mayotte, 10 au total, ont été isolés et les personnes qui se sont retrouvées au contact de ces malades ont été traitées par antibiotiques et sont protégées de ce fait de tout risque épidémique. Et puis par ailleurs, je pense que c'est important de le dire, il y a des campagnes de prévention aussi, où il faut faire en sorte que chaque habitant de l'île de Mayotte, chaque Mahorais, fasse attention à bien respecter des règles sanitaires toutes simples, comme se laver les mains.
Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, qui était l'invitée de Benjamin Glaize, c'était mardi sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Benjamin Glaize, qu'on retrouvera avec un autre ministre, cette fois-ci le ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure. C'était ce vendredi sur Sud Radio et ça sera donc à suivre dans les prochaines minutes. Et de l'énergie, il va en falloir pour survivre cet été à l'enfer des JO à Paris. D'ailleurs, c'est l'objet d'un jeu de société dont on a parlé cette semaine qui s'appelle La Traversée de Paris. C'était chez André Bercoff et qui de mieux que son créateur pour nous en parler. Ça sera dans quelques instants sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Carrefour Énergie.
Quand vous me dites « l'électricité, c'est trop cher »,
je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 20% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 euros en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant un an sur énergie.carrefour.fr. Carrefour Énergie. Service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024, hors toute taxe. Voir conditions sur énergie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Garaison, imaginez un cadre accueillant et unique dédié à l'apprentissage et à la transmission. Un lieu où écoliers, collégiens et lycéens grandissent et étudient dans le meilleur des environnements. Bienvenue à Notre-Dame de Garaison, l'institut qui fait le lien entre tradition et futur. Ici, la vie en communauté rime avec exigence et valeur. Info sur garaison.com.
Ce soir, on n'irait pas danser très tard. Même si c'est pas ton genre, je sais. Même si tu es plutôt discret, on parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
années filent, le même refrain. Jamais le temps de rien. Dans l'océan, gardez le lien. Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance. Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
Comme chaque week-end, on se retrouve tous ensemble sur Sud Radio pour eh bien, profiter ensemble des meilleurs moments de l'antenne avec dans quelques instants un maître de l'investigation très connu à la télévision sur M6 avec son émission Enquête Exclusive, mais qui s'est aussi attaqué aux réseaux sociaux, aux plateformes de streaming. Bernard de la Villardière était là pour nous parler de sa plateforme Real Media au micro de Valérie Expert et de Gilles Gansman. Et je pense qu'il pourrait faire une enquête sur Paris et notamment Paris 2024, un sujet qui a très très fortement inspiré François Bellet. Il est tout simplement spécialiste de communication politique et il a décidé de créer un jeu de société pour tout simplement parler de l'enfer qui est devenu Paris. Ce jeu s'appelle La Traversée de Paris et on en parlait ce mercredi dans Berkov, dans tous ses états sur Sud Radio.
Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Paris chante aux gens, Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat de
paix. Mais c'est vrai, Paris sera toujours Paris. Paris, c'est tellement fabuleux, la plus belle ville du monde, allez, disons-le, et surtout en ce moment, Et puis il y a quelqu'un, expert en communication politique, mais sulfureux, qui vient de créer un jeu de société qui s'appelle La Traversée de Paris, qu'on a reçu. La Traversée de Paris, on s'est dit, c'est formidable, c'est vrai, on est à un mois et demi des Jeux Olympiques, alors on va tous aller là-bas, puis des millions de gens vont venir du monde entier pour assister à ces grandes cérémonies. Mais alors comment faire? Eh bien, François Bellet a imaginé un guide, mais en forme de jeu, une espèce de monopoly géant sur Paris. Et vous allez voir, décrivez-le avant qu'on fasse parler François Bellet. Esteban Rania, vous avez joué avec Thibaut Sadler à cela. Vous en êtes devenu transformé, pratiquement bouleversé. On sent, ils ne tiennent plus. Là, ils sont dans un état de totale décomposition. Pourquoi? Comment? C'est quoi ce jeu?
Ah oui, c'est vrai qu'André, il y a des émissions plus sympathiques et plus faciles à préparer que d'autres. Avec Thibaut Sadler, on s'est attelé. On a reçu le jeu de François Bellet, qui ressemble, on peut le dire, à un jeu de loi pour ceux qui connaissent. Alors, vous avez un plateau avec des dessins vraiment magnifiques. Les graphistes ont fait un travail superbe. Et puis, avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, évidemment, mais qui cache peut-être une part de vérité pour certains Parisiens. Alors, vous avez un plateau composé de nombreuses cases. Vous jetez un dé et puis vous tombez sur des cases bleues, vertes.
Comment s'appellent ces cases? Donnez-nous des exemples.
Alors, je tombe sur une case bleue qui est une case mobilité urbaine.
Oui.
Et donc là, Alors j'ai une remarque de la question, donc je pioche une question bleue.
Oui.
Et ça me dit, alors tiens, route bloquée à cause d'activistes du climat, la main collée à la route, restez sur votre case. Donc je suis bloqué, je peux pas avancer dans.
Ah bon, il y a des routes bloquées comme ça avec des fous du climat qui collent leurs mains. Oui.
Exactement.
Autre chose.
Ouais. Je tombe sur une case verte. Alors j'ai tiré le dé, j'ai fait 3, je tombe sur une case verte et là c'est une case question. Donc je vous pose une question, André, chers auditeurs, vous pouvez répondre. En 2022, combien de chantiers étaient encore en cours dans les rues de la capitale? Réponse A, près de 5000. Réponse B, près de 8000. Ou réponse C, près de 10000. Est-ce que vous avez une idée?
3000, 5000 ou...
5000, 8000 ou 10000?
Ou 10000. Moi je dirais 8000.
Eh bien c'est 10000.
10 000.
Ouais, donc là, vous avez perdu, vous restez sur votre case. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé, François Bellé?
C'était parfait. C'était parfait. Quelle entrée en matière.
Alors, François Bellé, comment ça vous est venu? C'est vous est venu comment on peut comprendre, c'est vrai qu'en regardant ça, quand j'ai vu ça, c'est formidable parce que c'est très drôle et encore une fois, vous allez beaucoup vous amuser. C'est une description de Paris, je dois dire, d'un réalisme saisissant. Et vous êtes dit, voilà, je vais un peu montrer, faire un jeu et puis rire de cette espèce d'hallucinante gestion de Paris.
Ouais, en fait, je dirais que l'idée, elle s'est fait un peu en deux temps. Le premier temps, c'est que, donc là, c'est vraiment une expérience du réel. J'étais dans l'enfer des embouteillages de la porte Maillot.
Ouais.
Et donc, j'étais dans ma voiture et je me rendais à un rendez-vous et je me suis retrouvé à l'intersection de la modernité, c'est-à-dire entre les travaux, les embouteillages, les altercations et puis cet esthétisme violent avec les travaux, les rénovations. Et puis forcément, au volant de sa voiture, eh ben, soit on cogite, soit en tout cas on s'agite. Et j'ai commencé à me dire, traverser Paris est devenu une épreuve. Et voilà, j'avais les 3 mots-clés, les clés. Donc c'était la traversée de Paris, qui est devenue donc l'épreuve olympique
qui est un grand
la
film
plus difficile.
Et qui est un très grand film, vous vous rappelez.
Et étant adepte du détournement sur le plan publicitaire et communicationnel, la traversée de Paris, j'ai repris ça et j'en ai fait mienne. Et je dirais que j'ai validé cette idée-là aussi avec le contexte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de contenu produit sur une ville. Paris est devenu un marqueur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas autant de New York, de Sydney ou de Londres, c'est Paris. Paris, c'est devenu un sujet. Et donc, je me dis de fixer l'époque, de photographier l'époque dans ce quart de ce premier quart du XXIe siècle, ben, il fallait le faire, donc je l'ai fait.
Oui, mais alors, justement, vous l'avez photographié, mais de quelle manière, hein? Pour le meilleur et pour le pire, moi, je regarde, justement, les découvertes. Découvertes, par exemple, découvertes touristiques, hein? Démonstration du maniement de la machette par un Maudou. C'est quoi un Maudou, d'ailleurs?
Oui, ben ça, c'est les vendeurs de crack.
D'accord.
Il y en a un peu partout dans Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de passer de case en case, et de vivre, j'ai appelé ça des découvertes touristiques, mais finalement ce sont des épreuves de la vie urbaine contemporaine.
Bien sûr, non mais c'est par antiphrase que vous avez appelé des découvertes touristiques.
Donc c'est des attaques de rats, c'est des coupures de gaz, et en fait tout ce qui est écrit là, en fait, c'est pas forcément une caricature, c'est vraiment une photographie, parce qu'en fait, tout a été vécu, c'est des choses que... Et en fait, j'aurais pu en faire un livre. D'habitude, j'écris des livres, des essais, mais j'ai trouvé que par le prisme du jeu, c'était plus intéressant,
plus amusant. C'est un jeu vraiment, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, quand même, Paris, la plus belle ville du monde, Paris, 1500 ans d'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai. Tirs de mortier contre des consommateurs de crack, menace insistante devant une salle de shoot, chantier urbain en vrac laissé en jachère, alors ça, c'est formidable, quartier plongé dans le noir après une coupure de courant, embrouille avec un vendeur de billets à la sauvette, rencontre fortuite avec un plug géant, et oui, ça se rappelle la place Vendôme. Hein.
Exactement.
Voilà. Et mouvement de foule dans un centre commercial. Voilà, c'est vraiment... en fait, c'est à la fois extrêmement ironique, mais vous êtes dur sur Paris. Hein, parce que Paris est une jungle, quand même. Quand on voit votre jeu, on se dit, là, c'est devenu la jungle.
Non, mais pour moi, j'ai eu une approche naturaliste des choses, donc j'ai voulu faire... j'aurais pu faire un petit texte écrit dessus.
Très drôle.
Mais alors, ça, c'est la dimension, je dirais, satirique, polémique, mais presque photographique de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que certes, on en ressort énervé de ce jeu, mais aussi, on en sort informé. Donc, il y a le quiz avec les fameuses cartes Paris tragique.
Ouais.
Et là, c'est vraiment un quiz à la fois sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur la ville de Paris. Donc là, on a cité les chantiers, mais par exemple, sur le stationnement, qui est un vrai sujet, un autre fait marqueur de l'époque. Combien de FPS, vous savez, les forfaits post-stationnement, bon, ont-ils été dressés à Paris en 2022? 2 millions? 3 millions? Ou 5 millions?
5 millions?
Bravo, André.
5 millions.
Et tout ça, ça pose question derrière.
Non, mais tout à fait. Non, mais j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des informations. Chaque carte donne une information. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple comme ça, vous devez en avoir. Alors, c'est très intéressant de savoir combien de départements français ont refusé d'accueillir le passage payant de la flamme olympique. C'est 7, Esteban. 7, 17 ou 37?
Je dirais 17.
17. En fait, 37.
Ah oui,
voilà.
37, c'est absolu. Alors là, c'est magnifique parce que ça, on connaît tous, les Parisiens et tous les Français qui viennent à Paris. Quel est le temps moyen passé chaque jour par les Parisiens dans les transports en commun? 32 minutes, 42 minutes, 52 minutes.
Ah, je dirais 42 minutes.
52 minutes. Parce que à chaque fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois, c'est le maximum qui est juste, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai fait quand même attention que ce ne soit pas toujours la réponse C qui revienne.
Bien sûr.
Mais effectivement, les chiffres sont là et chacun après interprétera. En fonction de là où il se place, ces informations là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu. Vraiment de société, voilà. Et
oui,
j'ajoute le
fait.
Vraiment parce que je voulais redonner un peu de sociétal, un peu de sociologie au genre. Et donc le jeu de société, bon bah là, on apprend des choses sur cette mutation des villes. Et c'était intéressant pour moi de saisir l'époque.
Oui, alors, André, j'ai pas précisé, dans la boîte, il y a des cartes de santé mentale avec quelques mots dessus. Donc il y a sensation d'oppression, fatigue mentale extrême, transpiration excessive, accélération du rythme cardiaque, etc., etc. À quoi elles servent et pourquoi c'est
alors ces cartes-là visent à altérer la santé mentale du joueur au cours de la partie. Si on en a 3, c'est fini. La partie s'arrête pour celui qui en a 3 et là il faut qu'il fuit Paris au plus vite. Donc c'est un jeu intéressant parce que d'abord on n'est pas sûr de finir le jeu.
Ouais.
Ça peut se terminer en 5 minutes.
Si vous êtes trop stressé, trop atteint,
voilà.
Ça va, vous quittez, quoi.
Et puis après, bah voilà, on enchaîne. Sensation d'oppression, crise d'hystérie, impression de devenir fou et dégoût de la vie urbaine.
Et oui.
Donc voilà, c'est un jeu de 2, 4 à 6 joueurs et qui mêle. À la fois un travail presque d'essayiste, parce que bon, il fallait chercher un peu de documentation et essayer de trouver un angle.
Bien sûr.
Puis aussi un travail très artistique.
Très beau dessin. Bah écoutez, en tout cas, voilà, c'est un Monopoly, un Paripoly, un jeu de loi parisien. Mais ça, donc, vous savez, c'est toujours pareil, c'est Jean Cocteau qui parlait des miroirs qui réfléchissent. Et nous, on a décidé d'en parler, et c'est vraiment je vous le recommande, ce jeu, La Traversée de Paris, parce que, c'est un miroir. C'est un miroir de ce qui se passe dans une mégalopole, dans une grande ville, dans l'une des plus belles des grandes villes du monde, mais il y a aussi, effectivement, ce qu'on appelle le côté, non pas caché de la tapisserie, mais les trous dans la raquette, et les trous dans la raquette, ils sont très, très, très importants.
Berkov, dans tous ces états, c'est tous les jours entre midi et 14h sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
Et vous en avez l'habitude, vous le retrouvez également sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On part en mode investigation avec le maître de l'enquête, Bernard de la Villardière, qui était l'invité de Valère Expert et de Gilles Ganzman pour parler de sa plateforme Real Media qui vient de fêter son premier anniversaire. Il nous explique à quoi sert sa plateforme, qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Ça sera dans quelques instants à peine sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Sud Radio Anglette.
103.9.
Sud Radio.
Durée du trajet, 2h12. 2h10. Enfin, disons 2h. Ce télépéage m'a perturbé. Après, L'erreur est humaine, même si je ne suis pas humain. C'est ballot.
Avec le pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 1er mai en ligne et le 3 mai en mairie. Puis rendez-vous aux urnes le 9 juin et le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Plus d'infos sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Julien Doré sur Sud Radio avec Paris Seychelles.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
On poursuit le week-end tous ensemble sur Sud Radio avec de la politique à venir dans les prochaines minutes. C'est Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie, qui était l'invité de Benjamin Glaize. C'était ce vendredi à 8h30. Mais avant ça, on parle d'un autre invité qui était avec nous pour cette fin de semaine. Ce vendredi, Bernard de la Villardière était au micro de Valérie Expert et de Gilles Ganzman. Alors vous avez tous forcément déjà regardé ou au moins entendu parler des reportages d'enquête exclusive. Bernard de la Villardière, c'est aussi maintenant une plateforme en ligne qui s'appelle Réel Média. Et si vous n'avez pas encore entendu parler de cette plateforme, on vous explique tout avec lui, qui était notre invité pour parler du premier anniversaire de cette plateforme.
Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Avec Bernard de la Villardière, Réel Média sur X, sur les réseaux, Facebook, on le trouve
sur TikTok.
C'est sur Facebook, TikTok. Instagram et TikTok pour l'essentiel.
Pourquoi Réel Média? Je trouve ça pas sexy comme
mais
nom.
C'est génial, au contraire. Le réel, c'est la complexité, c'est être confronté à ses préjugés, c'est formidable le réel. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai voulu créer ma société de production, enfin, quand j'en rêvais, je me disais, le jour où je l'appellerai, je lui donnerai un nom, j'appellerai Ligne de Front. Et en fait, le nom n'était pas déposé. Et je me suis dit, vraiment, bon, on a fait Néo, mais je m'étais dit, si on fait un nouveau média, je l'aimerais l'appeler Réel Média. C'est la confrontation à la réalité. Et la réalité, c'est passionnant. Et je vous rappelle la baseline, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Le réel vous oblige à être nuancé, vous oblige à changer de point de vue, à élargir votre horizon.
Ça veut dire que le reste est faux ?
Non. Oui, souvent, on a des préjugés. Bah, tant qu'on n'a pas été confronté au réel, on ne sait pas très bien. Parlons du conflit au Proche-Orient, là, en ce moment, entre Israël, Gaza, etc. Si vous n'avez pas été une fois sur place, au minimum, même en tant que touriste, vous ne comprenez pas à quel point ce conflit se déroule dans un tout petit espace et à quel point il est dans les mentalités, il est dans les et le poids de l'histoire, etc. Il faut rencontrer les gens. Et quand vous rencontrez les gens, eh ben vous changez d'avis et vous voyez que le réel, vous oblige à vous adapter et à changer de point de vue.
Vous avez des avis bien tranchés. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Il y a deux jours, vous reveniez d'Équateur. Vous avez tweeté « Retour d'Équateur, comité d'accueil à Roissy par des baltringues et des traînes savates, faux taxi sans doute, qui me traitent d'islamophobe et de raciste. Un policier alerté ne peut rien faire. La prochaine fois, ce sera le coup de couteau, point d'interrogation. Bienvenue en France. » Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ah bah, c'était un coup de colère dans le taxi qui m'a ramené chez moi.
Vous arrivez à Paris et vous vous faites insulter ?
Oui, mais c'est de plus en plus le cas. J'ai été deux fois menacé de mort en France, à la fois à Saint-Brieuc et à Lyon, à quelques mois de distance, il y a quelques temps, par des gens qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais monsieur de la Villardière, on vous a reconnu, allez-vous-en, vous êtes islamophobe, on va vous trancher la gorge, on va vous égorger. On a prévenu nos amis, on va vous égorger. » Quand j'arrive à Roissy, c'est pratiquement systématique. Il y a beaucoup de faux taxis qui sont là, etc. Vous arrivez, c'est la cour des miracles. Et là, ils sont de plus en plus agressifs. Et je pense que c'est aussi... C'est pas que de simples incidents isolés, c'est une volonté de conquérir... d'occuper le territoire et de vous intimider. Et ça, je ne le supporte pas.
900 sujets, 300 millions de vues, 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux en seulement un an.
Ouais, c'est un vrai succès dont on est très fiers. On est une rédaction d'une quinzaine de journalistes qui vont sur le terrain. Ce qui fait un peu notre différence par rapport à Néo ou d'autres médias, c'est qu'on est beaucoup sur le terrain. On évite de reprendre des vidéos, on les reprend de temps en temps, on en reprend de temps en temps, bien évidemment, on ne fait pas de la curation, on fait du produit original avec des gens qui vont sur le terrain, avec des gens qui viennent s'exprimer dans le studio de Réel Média. Et notre baseline, on en est assez fiers, notre signature, c'est « Laissez-vous surprendre par le réel ». Enfin, c'est une prolongation un peu de ce que je fais depuis des années dans Enquête Exclusive. Et j'adore aller sur le terrain et me faire bousculer dans mes idées et dans mes préjugés.
Alors, comment c'est financé ?
Alors, c'est financé par ce qu'on appelle le brand content. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché du brand content qui est en train de se développer. Brut et Combini ont enfin trouvé un équilibre économique après avoir perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, on s'est lancé plus tard. On est raisonnable, évidemment. Et si tout va bien, on atteint d'ores et déjà notre équilibre économique. Et on va pouvoir faire une levée de fonds tranquillement d'ici quelques mois pour développer d'autres choses, notamment en matière de films institutionnels, de films de pub, etc.
Est-ce qu'il y a plus de liberté pour vous sur les réseaux pour
oui,
vous
bien
en tant que journaliste?
Oui, bien sûr. Et puis je pense que les réseaux sociaux, je dirais que c'est presque la télé de demain. C'est-à-dire qu'on peut tenter des choses qu'à la télé, on n'ose plus tenter aujourd'hui, notamment des formats.
Ouais.
On a créé plusieurs formats. C'est une situation sur les métiers, où les gens viennent parler de leur métier, à la fois à travers des anecdotes, mais à travers leur situation sociale, ce qu'ils gagnent chaque mois. Il y a une femme pilote de ligne qui est venue notamment témoigner. On a fait une série sur Marseille récemment, à travers de multiples prismes. Ça, il y a une diversité d'offres sur un même sujet, il y a une diversité de traitement de l'information, etc., sur des sujets qui font 6, 7, 8 minutes.
On est plus sur des reportages, encore une fois, qui sont... Qui qui donne de la visibilité sur des engagements, qui donne de la visibilité sur des entreprises.
C'est un média
on va pas retrouver le Bernard de la Villardière d'enquête exclusive.
Non, pas du tout. C'est le média, pas des solutions parce que c'est un mot qui est devenu un peu bateau, mais c'est le média dans lequel on met en valeur l'énergie humaine. En fait, l'objectif, auprès des jeunes, notamment, puisque c'est eux qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, les 15-35 ans, mais aussi les 15-45 ans, parce qu'ils regardent aussi Facebook. À mon âge, on est beaucoup sur Facebook, évidemment. Et leur redonner un peu d'espoir et de courage et leur dire, non, mais écoutez, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous dire, demain, c'est la fin du monde, parce que tout repose sur vous. Et en fait, c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité. Mais l'humanité, elle peut s'en sortir si vous vous engagez et si vous rien n'est perdu.
Il y a
une idéologie effondriste là, enfin qui est manipulée par certains écolos radicaux et qui fait que le résultat, c'est que en matière de santé publique, vous avez un jeune sur 6 ou sur 7 de moins de 25 ans qui est en dépression.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment...
On l'appelle la génération moins en moins.
C'est invraisemblable.
Mais qui vous regarde? Vous savez, vous connaissez vos téléspectateurs?
Ça dépend un peu des réseaux sociaux, en fait. Sur TikTok, notamment, où on a plus de 160 000 abonnés, c'est les jeunes, les très jeunes, les 15-20 ans, ou même les 12-18-20 ans. Sur Facebook, c'est un peu plus âgé. Sur Instagram, c'est plutôt les trentenaires. Donc, on a un assez large spectre. Et ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est beaucoup plus fin que Médiamétrie. C'est-à-dire qu'on sait très bien qui nous regarde, à quel moment et combien de temps la vidéo est regardée. Ça nous aide aussi dans la manière de raconter nos histoires. Et on emprunte évidemment beaucoup à la télé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que les réseaux sociaux, il fallait clipper, il fallait faire du people, il fallait faire du clash. Et la bonne nouvelle avec Néo et aujourd'hui, ce qui s'est confirmé avec Réel Média, c'est que non, on peut faire des choses, des vrais contenus avec des choses positives, avec de l'information. Moi, ce que je veux, c'est apporter de l'information. On a la volonté de devenir un média généraliste d'information sur les réseaux sociaux.
Vous dites que votre modèle, c'est le point de contact, mais est-ce que les marques influencent votre contenu? Par exemple, j'ai vu que vous aviez Electro Dépôt et BPI France ou AXA. Comment on les retrouve dans vos programmes? Est-ce que Electro Dépôt, vous allez faire un reportage sur le trafic des ordinateurs?
Non, pas du tout.
Mais comment se passe le mariage entre vos reportages?
Parce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de...
Alors, il y a 90 à 95% de nos contenus qui sont originaux, qui sont indépendants, qui ne sont pas financés par des marques. Donc voilà. En revanche, il y a 5%, 5 à 10%, peut-être demain, de nos contenus qui sont financés par des marques, mais on raconte une histoire avec elles. Par exemple, Electro Dépôt, on a raconté le recyclage des produits blancs.
Ah, ben j'étais pas loin.
Voilà. Bien sûr. Mais d'accord, mais on fait de l'information aujourd'hui, en fait, entre la communication, entre le brand content et le rédactionnel, il y a une épaisseur de plus en plus fine. Parce que les marques, quand elles communiquent, elles doivent raconter l'histoire et elles ne peuvent pas raconter de fausses histoires et faire du fake news. Parce que ça va leur retomber sur le dos. On co-construit éditorialement avec la marque des choses proches de leur univers et sur lesquelles elles veulent communiquer.
Et qui n'est pas du public reportage.
C'est-à-dire que ce n'est pas du public reportage, absolument.
C'est un sujet qui est en marge de leur activité, qui porte un éclairage, parce que moi, j'ai toujours trouvé passionnant les coulisses des entreprises. Je trouve qu'il y a des choses incroyables à raconter. C'est pas toujours facile. On avait voulu le faire sur France 3, aller montrer surtout dans l'agroalimentaire comment se fabriquent les chaînes, etc. Je trouve que c'est passionnant.
Mais c'est pas
parce que vous avez une marque qui est partenaire que c'est répréhensible.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'avec l'Occitane, par exemple, on a raconté comment ils aident les artisans, les agriculteurs à revenir à des pratiques plus traditionnelles, à ne plus recourir aux insecticides, aux engrais chimiques, plus aux engrais organiques, à restaurer d'anciennes pratiques agricoles plus respectueuses de la terre et de la nature. Voilà, ce genre de choses. AXA, on a fait avec eux les trophées RSE et on a mis en valeur les entreprises qui ont été primées dans ces trophées RSE. Oui. Donc c'est de l'information financée par une marque, mais ça reste de l'information.
Et c'est devenu surtout pour les réseaux un vrai financement. Par exemple, vous avez Jamy qui a son blog et qui fait les inventions. Par exemple, quand il a Sephora qui fait une commande, il explique d'où vient le rouge à lèvres sans qu'il y ait de lien avec Sephora, mais il garde son côté de, son, pour ce côté création, comment ça se passe, les coulisses, mais il y a une brand contente derrière.
Ça me rappelle, ça me rappelle une émission que je présentais, la première émission que j'ai présentée sur M6 il y a 25 ans maintenant, ça s'appelait le Produit Star. Ouais, on racontait l'aventure de la colle. La rentrée du frigidaire, l'histoire du frigidaire. Et j'aimerais d'ailleurs trouver une marque qui m'aide à financer ce genre de programme. Ouais. Je pense qu'il faut réconcilier la France. On parle de souveraineté économique, industrielle.
Absolument.
Il faut réconcilier les Français avec l'entreprise et avec l'aventure, la nouvelle aventure industrielle qui démarre.
Ouais,
qui n'est pas restaurer les usines d'autrefois, mais les usines 2.0.
Bernard de la Villardière, au micro de Valérie Expert et de Gilles Gansman. C'était dans Sud Radio Média.
Le meilleur de Sud Radio. John Racotosafi.
Et pour écouter en intégralité l'interview de Bernard de la Villardière, eh bien ça se passe sur notre site internet sudradio.fr. Vous retrouvez également toutes nos interviews de la semaine dans Sud Radio Média, mais aussi dans Le Grand Matin, dans Parlons Vrai sur Sud Radio ou encore dans Les Vraies Voix. À suivre dans les prochaines minutes, Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie. Il était notre invité cette semaine au micro de Benjamin Glaise.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons Vrai.
Parlons Vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion mais avec une fiabilité irréprochable ? Rendez-vous dans un instant.
Sud Radio Mende.
101.9.
Sud Radio.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi les miens ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi, et en plus il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude, sur un long trajet, une pause toutes les deux heures.
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Chez Autosécurité, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Autosécurité fait son grand jeu des As de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur autosécurité.com. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Le meilleur de Sud Radio. John Racotosafi.
Et bon courage pour tous ceux qui terminent les vacances ce week-end. On est là sur Sud Radio pour vous soutenir avec la suite du meilleur de Sud Radio. Et cette semaine, Benjamin Glaise était au micro de l'invité politique de Sud Radio entre 8h30 et 9h. Énormément d'invités qui se sont succédés chez lui pour répondre à ses questions. C'était le cas notamment de Roland Lescure avec eh bien, ce ministère très important, celui de l'industrie et de l'énergie. En cette période d'inflation, forcément, on avait beaucoup de questions à lui poser sur Sud Radio.
Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaise.
Mon invité politique aujourd'hui, c'est le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron, donc, qui a prononcé son discours sur l'Europe depuis la Sorbonne, 7 ans après son premier discours, allocution fleuve, je crois qu'on peut le dire, près de 2 heures. L'Europe est mortelle, ce sont ces mots. Et quand on parle de menaces, de ce qui menace l'Europe, est-ce que les souverainistes qui concrètement sont de plus en plus présents, augmentent de plus en plus dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Est-ce que là aussi c'est une menace très claire pour l'Europe, bien selon sûr. Vous Bien sûr, depuis 5 ans, et en fait depuis 7 ans, depuis le premier discours de la Sorbonne, on a réussi à inscrire une Europe où c'est au fond le centre, et dans ce centre, il y a la délégation française Renaissance au Parlement européen qui font les majorités. Et donc on a réussi à avancer, ça vous surprend pas que je le dise, en même temps, un peu à gauche et un peu à droite. On a eu à la fois des dispositions extrêmement ambitieuses sur la transition environnementale, mais aussi des dispositions très ambitieuses sur la compétitivité européenne, sur la gestion des frontières, le fameux pacte asile et migration qui permet à la fois de mieux préserver les frontières européennes, mais aussi d'intégrer davantage, de manière plus équilibrée, les immigrés qui ont vocation à entrer en Europe. Donc,
et pourtant, les listes souverainistes d'extrême droite n'ont jamais été aussi hautes, quoi.
Le risque, il est là aujourd'hui. Le risque, il est que plutôt que les majorités se fassent au centre, au Parlement européen, le risque c'est qu'elles se fassent à l'extrême droite. Donc il faut lutter contre ça. Et c'est pour ça que tout ce qu'on porte dans cette campagne, notre capacité à, par exemple, réconcilier économie et écologie, c'est-à-dire faire de l'écologie à la fois un fer de lance de ce qu'est l'Europe et de ce que sera l'Europe, la première
le premier continent décarboné au monde, mais aussi d'en faire un gage de prospérité. Moi, je porte ça tous les jours. L'industrie française, l'industrie européenne verte, elle doit être un gage de prospérité dans tous nos territoires, y compris dans les territoires où le Front National, le Rassemblement National a prospéré. L'industrie, c'est une arme anticolère, c'est une arme d'espoir. Il faut utiliser cette arme en France et en Europe.
Pour terminer sur ce discours d'Emmanuel Macron, discours de campagne, oui ou non. Et puis au-delà de ça, quand on parle de souveraineté, notamment française, on a l'impression qu'on entendait surtout le terme de fédéralisme presque. On était plus sur une Europe fédérale présentée, vendue par Emmanuel Macron, plutôt qu'une Europe des nations.
Moi, je me méfie, des guerres de religion ou des guerres qui consistent à prendre des mots un peu mythiques et à les opposer les uns aux autres. La réalité, on le sait bien, c'est que l'Europe ne sera pas forte si les nations qui la composent ne sont pas fortes. Mais la France ne sera pas forte dans le monde dans lequel on est aujourd'hui si l'Europe n'est pas forte. L'Europe, c'est un équilibre entre des pays forts dans une équipe encore plus forte. C'est une équipe de foot, l'Europe. Une vraie équipe de foot n'est forte que quand les 11 joueurs jouent ensemble. On est à 27. C'est parfois un peu plus compliqué de jouer à 27 qu'à 11. Mais si on joue pas ensemble de manière solidaire, coopérative, reconnaissant les différences, les talents différents des uns et des autres, on va perdre la partie parce que face à nous, on a 50 États, les États-Unis et un certain nombre de provinces de la Chine qui sont très forts.
On peut avoir une souveraineté française et une souveraineté européenne en même temps.
Regardez, les médicaments. Moi, j'ai été à Bruxelles cette semaine pour annoncer le lancement d'une alliance des médicaments critiques. Ça veut dire quoi?
Au niveau européen, oui. Ouais.
Au niveau européen. Parce que, évidemment, on l'a vu face à la Covid, si on n'est pas fort en européen sur les médicaments, on n'y arrivera pas. On a été le continent, j'aurais aimé qu'on l'invente, le vaccin, mais en tout cas, on a été le continent qui a produit le plus de vaccins et qui a partagé ces vaccins de manière à vacciner tout le monde en Europe. Ça a été un exemple unique. On a aujourd'hui un projet de relocalisation de médicaments critiques en France et en Europe.
On en est où aujourd'hui?
On avance. On a 25 médicaments qui sont
en train... On parle beaucoup du paracétamol.
Le paracétamol, ouais. On a deux usines qui vont ouvrir en France. Le Curare, des médicaments contre le mélanome, contre le cancer du pancréas, sont en train d'être rapatriés en France. Mais si demain, on a 27 usines de paracétamol en Europe, je ne suis pas sûr qu'on sera très efficace. Donc il faut à la fois que chaque pays ait sa politique de souveraineté, parce que la politique de santé reste évidemment nationale, mais qu'on se coordonne de manière à éviter qu'on ait 27 usines de paracétamol en France. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. L'Europe, c'est un équilibre entre des nations fortes et un collectif d'autant plus fort.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on a certains Français frontaliers de l'Italie qui passent la frontière, qui vont en Italie pour chercher de l'amoxicilline? On parle de collectif européen, et là, on a l'impression que peut-être l'Italie ne joue pas le jeu, c'est quoi?
Non, c'est pas ça. On a aujourd'hui certaines pharmacies, il faut le reconnaître, qui manquent d'amoxicilline et d'autres qui en ont. Donc, on a un enjeu d'information des patients, et Catherine Vautrin travaille là-dessus, de manière à ce qu'on puisse à la fois produire en France, délivrer et soigner partout en France. Donc il y a ce défi d'affectation des stocks qui parfois est pas parfaite, on va le dire comme ça. Et donc pour les frontaliers, la pharmacie d'à côté, parfois elle est de l'autre côté de la frontière. Mais les manques qu'on voit aujourd'hui sur l'amoxicilline, malheureusement, je dirais, ils sont présents un peu partout en Europe. C'est pour ça qu'il faut mieux se coordonner aussi sur la compréhension des stocks et des productions, sur notre capacité à relocaliser des productions en Europe, en France, en Italie ou ailleurs, mais en tout cas qu'on le fasse ensemble. Et là-dessus, vraiment, on a beaucoup avancé depuis un an. Vous parliez de paracétamol tout à l'heure, on en manquait il y a un an, on n'en manque plus aujourd'hui. Et l'amoxicilline, le défi majeur, c'est l'amoxicilline pour les enfants, sur lequel il faut qu'on travaille. On a travaillé avec des producteurs qui produisent en France, d'ailleurs, GSK produit en Mayenne, et a annoncé récemment, grâce à nous, on a beaucoup échangé avec eux, 1 million de doses en plus produites en France, destinées au marché français.
Parlons puisqu'on parle de médicaments, de Biogarant,
oui.
Également leader des médicaments, rappelons-le, générique en France. Biogarant qui est à vendre, 4 repreneurs intéressés, dont 2 entreprises indiennes. Les Républicains vous appellent à vous opposer à la cession de Biogarant à une entreprise non européenne. C'est légal, est-ce que vous allez le faire si la situation le nécessite?
Bon, d'abord, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis aujourd'hui à votre micro, j'étais en colère la semaine dernière, je le suis encore aujourd'hui, parce que on ne vend pas une entreprise comme ça, pour laquelle il faut bien qu'on comprenne qu'un générique sur 3 acheté en pharmacie française vient de Biogarant. Donc, quand vous allez à la pharmacie acheter de l'amoxicilline, il est très probable que si vous achetez le générique, ce soit du Biogarant. Deux, c'est une entreprise qui produit pas directement les médicaments, mais qui fait produire en France. Il y a 39 usines en France aujourd'hui qui produisent pour Biogarant. Et donc, on ne procède pas à la vente d'une entreprise comme ça, comme si de rien n'était. Donc, un, on va suivre ça très près. Deux, on est prêt à mettre en place des conditions drastiques sur cette vente de manière à s'assurer, un, qu'on continue à approvisionner la France et que deux, on continue à produire en France. Après, le sujet, c'est moins...
Donc, est-ce ça que veut dire que si, non, mais si ces entreprises...
Moins, le sujet est moins, est-ce qu'il est indien, canadien ou allemand ou français, la réalité. La semaine dernière, j'ai inauguré une usine de gants chirurgicaux. Ça faisait 30 ans qu'on ne faisait pas de gants chirurgicaux en France. C'est une entreprise qui est dans la Sarthe, qui va produire 1 milliard de gants chirurgicaux pour la France et pour l'Europe, qui est détenue par un investisseur canadien. Donc, on peut avoir des investisseurs internationaux qui choisissent la France. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'ils livrent la France et est-ce qu'ils produisent en France. Donc, c'est de ça dont on va discuter avec les acheteurs potentiels. Moi, je les ai invités à venir me voir et ma porte est ouverte pour les recevoir, pour qu'ils comprennent que quand on achète une entreprise...
Ils n'ont pas encore répondu.
Pas à ce stade, et je suis patient, mais il est évident que quand on achète ce type d'entreprise en France, ou qu'on envisage de le faire, il faut qu'on sache qu'il y a des conditions extrêmement sévères qui peuvent être imposées, et pour répondre à votre question, oui, j'ai le droit de le faire. On a voté des dispositions sur les investissements étrangers en France qui permettent d'imposer
et
des
conditions. Et vous le ferez si le repreneur n'assure pas ces conditions.
Évidemment. Donc on va discuter de tout ça avec les repreneurs potentiels, mais on regarde cette transaction, évidemment, de manière... extrêmement précise et sévère s'il le faut.
Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, était l'invité de Benjamin Glaize. C'était ce vendredi sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Et dès lundi, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera de retour pour l'invité politique entre 8h30 et 9h, avant de prendre vos appels, comme chaque jour, pendant une demi-heure, au 0826 300 300. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On a rendez-vous avec Judith Belair. C'est excellent, comme chaque dimanche, à 19h. Et puis, moi, je vous souhaite de passer tout simplement une très, très bonne fin de week-end et une très bonne soirée. À notre écoute.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8.
Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je pourrais vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence.
Sud Radio, parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Sarlat.
107.1.
Sud Radio.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Sud Radio.
Je veux prendre le temps de vivre. Demain, je vis à demi, sans voir le chemin que je parcours aujourd'hui, toujours plus loin. Au présent sans retenir le passé. je mets sur pause l'avance rapide et enfin je dispose de toutes les scènes de mon film. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps.